Vous écoutez RTL.
RTL, il est 18h. Et c'est RTL Soir avec Vincent Parisot.
Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est parti pour 2 heures d'infos. C'est RTL Soir. Avec à la une les deux visages de la SNCF en plein débat sur la réforme. Celui des syndicats, grave, ils sont réunis en ce moment pour organiser la riposte. Et celui rayonnant de Guillaume Pepy qui annonce de très bons résultats, un bénéfice multiplié par 2 à 1,3 milliard, fruit de mesures fiscales mais aussi d'une hausse de la fréquentation. Le train redécolle, dit le patron de la SNCF. RTL Soir, première édition avec vous Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et les autres titres.
À Marvel, la Reine des Neiges et Star Wars, bientôt à Disneyland Paris, le parc d'attractions va s'agrandir. 2 milliards d'euros sont investis à Marne-la-Vallée.
Mais quelle retombée d'ailleurs en termes d'emploi, on va en parler avec Jamila Waz, elle est la déléguée CFDT d'Euro Disney.
À l'Amérique qui investit et celle qui se désengage, 1 millier d'emplois sont menacés à Blanquefort près de Bordeaux où le constructeur automobile Ford ne veut plus rien dépenser. Les enquêteurs pensent avoir arrêté un violeur en série interpellé hier. Son ADN avait déjà été relevé une vingtaine de fois. Certaines affaires ont plus de 30 ans. La promenade de santé de Laurent Wauquiez dans les allées du salon de l'agriculture porte de Versailles, sa popularité n'est pas entamée par les polémiques. Et puis la fissure du 5e métatarsien, traumatisme au PSG où l'on assure que Neymar blessé ne se fera pas opérer. La bourse de Paris a terminé stable ce soir, moins 0,01% à 5343 points. Et puis les courses à Pontchâteau, il fallait jouer l'As, le 12, le 11, le 2 et le 13.
À la fin du journal de Céline, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, est-ce qu'on peut, nous en France, mettre des SDF à l'abri de force, comme ça commence à se faire en Belgique? Dans la foulée, l'invité d'RTL Soir, Arnaud Clément, l'ancien capitaine de l'équipe de France de tennis. Il va donc réagir au projet déjà très avancé d'une Coupe Davis transformée en mini Coupe du Monde sur une semaine chaque année. Moins de contraintes et plus d'argent. On lui demandera si l'esprit Coupe Davis risque de mourir. Puis direction les coulisses de l'actu. Aujourd'hui, dans les coulisses du MWC, c'est le congrès mondial du téléphone mobile actuellement à Barcelone. À 18h30, Olivier Mazerolles, Jean-Yves Le Drian à Moscou. La diplomatie française est à l'épreuve de la réalité sur la Syrie. À 18h50, ça sera RTL Monde avec des féministes au pays des machos. À 19h15, comme chaque soir sur RTL, dans RTL Soir, eh bien, on refera le monde avec les polémistes. Et puis la météo, Patricia Charbonnier, des températures encore glaciales demain, avec en plus de la neige dans le sud.
Oui, une troisième journée de grand froid avec de très fortes gelées. Demain matin encore, à peu près comme aujourd'hui, moins 12 degrés sous abri à Clermont-Ferrand, moins 10 degrés à Orléans, moins 8 à Lille, moins 7 degrés demain matin à Paris intramuros, moins 7 également pour Nantes. Et donc, dans l'après-midi, température comprise entre moins 1 et 8 degrés, encore des gelées demain après-midi sur le nord et le nord-est. Alors sur la moitié nord du pays, ce sera encore un temps sec, très froid, avec toujours le vent de nord-est pour demain, mais avec un ciel de plus en plus nuageux dans l'après-midi. Et dans le sud, c'est donc le début d'une dégradation, forte dégradation, pluvieuse et surtout neigeuse. Ce soir, 9 départements du sud sont placés en vigilance orange, neige, verglas. On attend de fortes chutes de neige à partir de demain matin, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine, la Provence et le Languedoc.
Merci, à tout à l'heure Patricia.
RTL Soir.
Y aura-t-il grève à la SNCF avant le 22 mars? Eh bien, l'intersyndicale se réunit en ce moment pour décider de la réponse à donner au gouvernement.
La réponse à la réforme du rail présentée hier par Édouard Philippe. Et parmi les principaux points de crispation, la volonté du gouvernement de supprimer le statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Alors, dès hier, les syndicats ont fait savoir qu'ils réagiraient et peut-être sans attendre le 22 mars, jour de mobilisation nationale dans la fonction publique. Roger Dillenseger, Gilles Dillenseger, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire.
Autant vous dire que non seulement sur la question de l'abandon du statut des cheminots et sur la méthode, à savoir les ordonnances, on est plutôt sur une situation plutôt revendicative et mobilisatrice. Mais la priorité, c'est de garder un mouvement unitaire, justement pour permettre de s'afficher avec force face au gouvernement. A minima, la première étape, ce sera le 22 mars, où l'UNSA Ferroviaire s'est déjà engagée, et avec un dépôt de préavis à la clé. Maintenant, après, on verra les évolutions sur les discussions qu'on peut avoir au niveau du ministère et on se chargera de faire monter la pression.
Voilà, Roger, c'est bien Roger Dillenseger, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, au micro RTL de Vincent Serrano. Des cheminots qui ont tout de même appris aujourd'hui une bien bonne nouvelle.
Ouais, ils toucheront 350 à 450 euros d'intéressement, car oui, financièrement, la SNCF se porte bien cette année. Guillaume Pepy a présenté les résultats cet après-midi. Le bénéfice net a bondi, multiplié par 2. 2,3 pour s'établir à 1,33 milliard €. Éric Vanier, après plusieurs années de baisse, le trafic ferroviaire repart.
Oui, le chiffre d'affaires de 2015 avait été plombé par les attentats, celui de 2016 par les grèves à répétition. 2017 marque effectivement un rebond spectaculaire, porté notamment par le retour de la croissance, explique le patron de la SNCF, Guillaume Pépi.
2017, l'économie repart, le moral des ménages repart. Nous avons eu la chance de ne pas avoir d'attentats majeurs en Europe. Et donc, les clients ont eu envie de bouger, envie d'aller voir des expos, de partir pour un week-end, de se déplacer davantage. Donc, ça veut dire que quand on sait avoir des prix qui sont super serrés, à ce moment-là, les clients voyagent davantage en train.
10 millions de voyageurs en plus dans les TGV, par exemple, ça correspond à une hausse de 10% du trafic boosté par le développement de Ouigo, le TGV low cost qui dessert de plus en plus de villes. L'ouverture l'été dernier des deux nouvelles lignes à grande vitesse, l'une vers Bordeaux, l'autre vers Rennes, toutes les deux plébiscitées par les voyageurs. Et le succès d'initiatives commerciales comme TGV Max, le TGV façon illimitée pour les jeunes, 100 000 forfaits vendus l'an dernier. Même les intercités redressent la tête, jusque-là en déclin, leur fréquentation a progressé de 3%, idem pour les TER, près de 5% de hausse, et en région parisienne, les RER et les trains de banlieue, plus 1,3%, conséquence de l'amélioration de la situation de l'emploi. On trouve de plus en plus de salariés dans les trains sur les trajets domicile-travail.
Éric Vanier, spécialiste transport pour RTL.
Disneyland Paris s'agrandit. Le groupe américain va investir 2 milliards d'euros pour son parc français.
Trois nouvelles zones thématiques verront le jour à Marne-la-Vallée, dédiées à Marvel, la Reine des Neiges ou encore l'univers de Star Wars. Disney espère ainsi redresser les comptes du parc, première destination touristique privée d'Europe.
Et pour en parler avec nous sur RTL, Jamila Oise, la déléguée CFDT d'Euro Disney. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, le groupe Walt Disney Company qui décide d'investir 2 milliards d'euros supplémentaires dans le parc Disneyland Paris. J'imagine que c'est une très bonne nouvelle pour les salariés.
Alors c'est une grande nouvelle pour les salariés et au-delà des salariés, puisque ça permet aussi du développement en emploi direct et indirect sur tout Val d'Europe.
Et on a une idée d'ailleurs du nombre d'emplois qui pourraient être créés.
Non, pas encore. Mais la projection que l'on pourrait voir quand on regarde un petit peu l'étendue qu'il y a eu depuis 1992, je pense que l'impact va être énorme.
Vous étiez informé, vous saviez que quelque chose se préparait?
Oui, nous savions. Au-delà, nous savions aussi que sur les studios, depuis un petit moment, il devait réavoir des attractions sur le développement et puis les attentes des touristes.
Justement, vous le dites, c'est le parc Walt Disney Studios qui sera vraiment, le plus concerné par ce plan d'expansion, qui va vraiment s'agrandir avec trois nouvelles zones, Marvel, Reine des Neiges et Star Wars. Oui. Ça, c'était vraiment une nécessité parce que le parc Walt Disney Studios était aujourd'hui peut-être un peu trop petit par rapport à son voisin.
Il n'y a pas que ça. Ça a toujours été dans les projets de développement. Disney a toujours été dans ses projections futures. Maintenant, effectivement, il y a des projets de développement pour les salariés de Disney et les environs. Ouais. Mais au-delà, tous les jeunes, par rapport au territoire, qui vont être en termes d'emploi, en termes de professionnalisation avec toutes les universités qu'il va y avoir dans le futur, sur la qualification des métiers. Donc il y a un engagement qui est énorme.
Oui, et rappelons que ça représente quand même plus de 6% de toutes les recettes touristiques en France. D'ailleurs, le PDG de Disney, Bob Iger, est venu en personne annoncer la nouvelle ce matin à l'Élysée à Emmanuel Macron. C'est symbolique, bien sûr, mais c'est important.
Oui, parce que au-delà, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été discutées en termes de logement, qui est un vrai problème et a une très grande attente pour les salariés et pour les futurs salariés de Disneyland Paris et des environs, parce qu'il ne faut pas oublier tous les emplois indirects que nous avons sur le côté.
Merci, Jamila Oise, d'avoir été sur RTL pour commenter donc ce plan d'expansion de Disneyland Paris. Merci, à bientôt.
Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
RTL Soir, il est 18h09.
Un millier d'emplois sont donc menacés à Blanquefort, près de Bordeaux. Le groupe Ford, en effet, ne veut plus investir en Gironde.
Le site bordelais est spécialisé dans la production de boîtes de vitesse. Philippe Demaria, le constructeur automobile, a donc décidé de geler les investissements sur place. Et plus d'investissements, ce sont évidemment des emplois en danger.
Oui, c'est l'un des plus gros employeurs de la région. Ce matin, la direction de Ford annonce en CE que le projet de boîte 8 vitesses ne sera pas fabriqué en Gironde. Projet pas économiquement viable. Ces boîtes sont pourtant en ce moment fabriquées aux États-Unis puis importées en Europe. Gilles Lanversant de la CGT.
C'est une catastrophe, quoi, quand même. C'est un désengagement quand même formel de Ford. Quand Ford est revenu il y a 5 ans, nous a donné quelques projets. Et là, ils arrivent à terme. On fabrique encore quelques productions. Mais ça arrive à terme. Depuis 5 ans, il n'y a pas eu d'embauche, beaucoup de départs. Et on voit très bien que c'était une mort programmée.
Alors l'histoire du site est compliquée. En 2008, Ford trouve un repreneur, mais ça se passe très mal. La firme américaine revient dans la course et les collectivités locales mettent beaucoup d'argent. Alain Juppé, patron de Bordeaux Métropole.
Ford avait signé une convention en prenant des engagements en compensation des aides qui ont été apportées par l'État et les collectivités locales, qui se montent, je crois, à une quinzaine de millions d'euros. Cette convention arrive à échéance. Ce n'est pas pour autant que Ford peut se libérer de toutes ses responsabilités.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a récemment rencontré le patron de Ford Europe. Il lui a demandé de maintenir une activité jusqu'à fin 2019. Objectif atteignable selon la firme US. Le ministre recevra prochainement les élus et les salariés de Ford Blanquefort.
Philippe Demaria, correspondant de RTL dans le Sud-Ouest. À l'étranger, l'Allemagne fait un pas de plus vers l'interdiction des véhicules diesel en ville sous condition. La justice confirme que les villes de Stuttgart et Düsseldorf pourront interdire la circulation des véhicules les plus polluants.
Voilà, et d'ailleurs on y reviendra à 19h et dont on refait le monde tout à l'heure avec les polémistes en se demandant si c'est ce qui nous attend également en France. Allez, courte pause et dans un instant on va vous raconter comment un violeur en série a été trahi par son ADN. Une vingtaine d'affaires pourraient être résolues. À tout de suite.
18h12, RTL Soir avec Vincent Parisot et le journal de Céline Landreau.
Il sévissait probablement depuis une trentaine d'années. Un violeur en série présumé a donc été interpellé hier dans le nord de la France, Céline.
L'homme d'une cinquantaine d'années était recherché après une agression sexuelle la semaine dernière en Belgique. RTL vous le révélait à la mi-journée. Il a donc été arrêté hier, près de chez lui, dans la région de Maubeuge. Et les enquêteurs se sont aperçus, Olivier Bois, que son ADN avait déjà été relevé dans une vingtaine d'affaires de viol ou d'agression sexuelle. Et cela depuis plus de 30 ans.
Oui, depuis 30 ans d'ailleurs, les policiers avaient un nom de code pour toutes ces affaires non élucidées pour cette enquête. Le violeur de la Sambre. Voilà comment ils désignaient le suspect du nom d'une petite rivière dans le secteur à côté de laquelle un certain nombre d'agressions avaient eu lieu. Une vingtaine d'agressions sexuelles et de viol en tout, le premier en 1988, le dernier recensé et identifié en 2012, à chaque fois un ADN, mais qui restait tragiquement inconnu, le prédateur sexuel restant lui insaisissable. Tout s'est emballé la semaine dernière, une femme est agressée en Belgique, elle donne le signalement, la police française est prévenue, le mode opératoire ressemble au violeur de la Sambre, la police judiciaire de Lille active donc ses équipes en urgence, et grâce à la coopération des Belges, ils parviennent à retrouver la voiture du suspect. C'est au moment précisément où il venait la récupérer hier dans un garage à Avesnes-sur-Helpe qu'il a été interpellé. Les analyses scientifiques sont venues lever tous les doutes. C'est bien son ADN qui restait inconnu depuis 30 ans. Le suspect est âgé d'une cinquantaine d'années. Il vivait, il travaillait dans le secteur. En garde à vue, il a reconnu les faits. Il y a donc, vous l'aurez compris aujourd'hui, une vingtaine d'affaires pour lesquelles l'ADN est formel. Mais les enquêteurs ont des doutes sur une trentaine d'autres agressions sexuelles. La garde à vue du suspect se termine demain avant sa mise en examen.
Olivier Bois du service police-justice de RTL.
C'était sa grande première en tant que président des Républicains. Eh bien, on va dire déambulation réussie pour Laurent Wauquiez aujourd'hui au Salon de l'Agriculture.
Le leader de la droite faisait sa première apparition donc publique depuis la diffusion de ses propos polémiques face à des étudiants d'une école de commerce lyonnaise. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
Vous avez suivi Laurent Wauquiez aujourd'hui, donc porte de Versailles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les saillies du chef des Républicains n'ont pas choqué dans les allées du salon, bien au contraire.
Effectivement, et Laurent Wauquiez a pu le constater dès son arrivée ce matin. L'accueil des agriculteurs est bienveillant.
Les agriculteurs sont avec vous, Laurent. On vous aime. On va y arriver, Laurent.
Merci. Allez, bon courage.
Et celui des visiteurs, même encourageant.
Je vous félicite pour votre franchise. Moi, j'aime bien ça.
Merci, c'est gentil.
Je trouve que c'est le seul qui est direct et qui dit vraiment ce qu'il pense. Et la vérité aussi.
aux gens.
Il vous a pas choqué alors ?
Non, pas du tout, pas du tout.
Le chef de la droite semble être en train de devenir aux yeux d'une partie des Français celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
Moi j'aime assez. Ouais.
Ah moi j'aime assez.
Ah ouais. Ouais.
Hein, pas peu fier de son nouveau rôle.
Ici ils ont beaucoup de bon sens. Ils disent on préfère un politique qui dit les choses que quelqu'un qui fait de la langue de bois, quitte parfois à casser un peu de vaisselle, mais qui au moins dit ce qu'il pense.
Et quitte parfois à susciter l'aversion de certains visiteurs. Wauquiez, on l'aime ou on le déteste.
Je vous déteste. Oh bah je vous déteste. Ne me touchez pas, vous me répugnez, vraiment. Quel sale mec, alors. J'ose espérer qu'il va se planter le plus vite possible, ce mec. Sale type.
Son entourage se veut rassurant. Lui, au moins, n'a pas été sifflé. Restera l'image d'un homme à la parka rouge qui serre des mains et mange du saucisson.
Allez, bon courage.
Tout le reste n'a que peu d'importance.
Ah oui, il y en a qui parlent cash quand même, hein, au Salon de l'Agriculture. Vous avez pu l'entendre dans ce reportage de Dominique Tenza du service politique d'RTL. La France demande, Céline, la France demande au régime syrien de respecter la trêve humanitaire décrétée par la Russie.
Une trêve quotidienne de 5 heures annoncée hier par Vladimir Poutine, mais qui n'a pas tenu. Ce matin, les raids aériens se sont poursuivis sur la Ghouta orientale, l'enclave rebelle à l'est de Damas, en déplacement à Moscou pour rencontrer son homologue russe. Jean-Yves Le Drian a demandé à Bachar al-Assad de s'en engagé à respecter le cessez-le-feu.
Et j'observe que les trois groupes présents dans la Ghouta orientale, que sont Jaïch al-Islam, Ara al-Sham et Faylaq al-Rahman, viennent d'écrire à la présidence koweïtienne du Conseil de sécurité pour accepter la trêve humanitaire. Il importerait que le régime de Bachar el-Assad le dise aussi.
La France pointe donc du doigt le régime de Damas. Les autorités russes, quant à elles, accusent les rebelles de ne pas avoir non plus respecté cette trêve et d'avoir lancé une offensive aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, on va revenir tout à l'heure avec Olivier Mazerolle sur la diplomatie française dans cette affaire. Le Paris Saint-Germain veut donc entretenir l'espoir. Il reste ou il resterait une petite option pour que Neymar joue le 6 mars prochain face au Real Madrid.
L'attaquant brésilien souffre d'une entorse de la cheville droite et d'une fissure d'un des os du pied. Il s'était écroulé dimanche soir lors du match contre l'OM et c'est son coach Unai Emery qui a donné de ses nouvelles aujourd'hui à une semaine tout juste du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Unai Emery qui a soufflé le chaud et le froid, Eric Silvestro.
Oui, l'entraîneur parisien a surtout enfilé son costume de pompier pour éteindre la rumeur d'une opération attisée par une presse brésilienne affirmative.
Ce n'est pas la décision de faire une opération. C'est faux cette information. C'est tranquillité et attendre un peu comment il passait les jours.
Oui, mais la presse espagnole, elle n'a pas l'intention d'attendre et a relancé Unai Emery sur le match contre le Real.
Participera al partido ante el Madrid. Es cierto que Neymar va a operarse.
Alors jouera, jouera pas, le mystère reste entier, même si l'optimisme des premières heures s'estompe. Alors autant évoquer la revanche de demain contre l'OM en quart de finale de la Coupe de France. C'est en tout cas ce que pensait l'entraîneur espagnol quand les journalistes français l'ont interrogé.
Est-ce que vous avez une durée d'indisponibilité pour Neymar ?
Est-ce que vous avez parlé avec Neymar ?
Est-ce que vous préparez l'option du match retour contre Real Madrid sans Neymar ?
Par rapport à Neymar ?
Est-ce que vous vous sentez fautif de ne pas avoir sorti Neymar ?
Ah ben non, en fait, hein. On parlera que de Neymar.
Ça peut les énerver les autres au bout d'un moment quand même.
On merci va quand même beaucoup parler de la Coupe de France.
Ah bah oui.
D'un mot pour vous dire que ce soir, le premier quart de finale se joue. Les Herbiers Club de National reçoit Lens, coup d'envoi à 21h.
Bon bah surtout que vous avez un favori là-dedans, dans cette histoire, je suis sûr. Vous voulez nous le dire ?
Impartial.
Ah toujours. D'accord, jusqu'au bout, journaliste jusqu'au bout
en
des
ondes. En tout cas à l'antenne.
Et vous reviendrez tout à l'heure alors
À tout à l'heure, 18h30.
Merci.